Bonsoir, Bruno Gollnisch.
Bonsoir.
Faut-il vous présenter ? Vous êtes député européen, vous êtes délégué général du Front National, et j'aimerais d'abord vous remercier, parce que je sais que vous partez à Lyon, et que j'ai donc dû vous distraire de vos obligations lyonnaises pour nous consacrer quelques moments à Radio Courtoisie, et pour parler politique, pour parler d'actualité, et pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, tout d'abord, Bruno Gollnisch, j'aimerais que nous allions sur l'actualité de la vie politique française, qui est bien, le spectacle est en effet bien lamentable, et l'affaire Clearstream n'est d'ailleurs qu'un des aspects de la déliquescence de l'État, mais je crois qu'il y a véritablement une question là qui se pose, c'est celle de savoir si ce régime va continuer de tenir.
Oui, c'est un aspect de la déliquescence de l'État et c'est un aspect de la déliquescence de toutes les composantes de l'État. Le pouvoir législatif avait depuis assez longtemps été effacé de la carte et le Parlement n'est plus qu'une maison vide, sauf dans la séance du mardi entre 15h et 17h où on fait voir un peu un jeu de guignol lors des questions au gouvernement. À 17h05, tout le monde a plié bagage, ce que ne montrent pas les caméras de France 3. Le pouvoir exécutif, n'en parlons pas, c'est évidemment absolument dramatique, mais ce que je voudrais souligner, c'est que c'est aussi une déliquescence du pouvoir judiciaire, parce que Villepin a bon dos, je ne suis pas chargé de le défendre, hein, c'est entendu, mais on l'accuse de quoi? On l'accuse d'avoir fait mener une enquête discrète par un directeur des services spéciaux, bah, c'est en principe ce qu'il y a de plus discret théoriquement, ça devrait, pour vérifier les informations qui mettaient en cause l'honorabilité d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, d'hommes d'affaires et de ses collègues au gouvernement. Moi, je ne vous cache pas que si j'étais ministre et si on me mettait entre les mains un listing faisant apparaître que tel ou tel de mes collègues au gouvernement détient des comptes occultes qui servent au blanchiment de pots de vin issus de
commissions
commission illégales sur vente d'armes, j'essaierais discrètement de savoir si ce qu'il y a derrière. Oui. Ça me paraît pas absolument en soi scandaleux. À moins que Villepin, Chirac, n'aient été à l'origine, ce que je n'ai pas encore lu dans la presse, de cette manipulation pour essayer de torpiller Sarkozy. En revanche, ce que je trouve assez extraordinaire, moi, d'abord, plusieurs choses, c'est que d'abord, c'est aussi que le pouvoir judiciaire puisse maintenant perquisitionner des magistrats dont on ne sait pas quelles sont les habilitations en matière de secret défense, puisse arriver dans le bureau du ministre de la Défense, se faire ouvrir les coffres. Moi, j'ai le souvenir, depuis j'ai pris du galon, j'en ai maintenant 5, pas lâché, il est vrai, mais ça n'est pas mal pour un amateur, mais quand je n'en avais qu'un seul, j'étais modeste enseigne de vaisseau de deuxième classe, c'est-à-dire sous-lieutenant. J'étais de camp du vice-amiral d'escadre qui avait sous sa direction tous les essais de la flotte française, y compris ceux des sous-marins nucléaires, la refonte du croiseur Colbert, les armes nouvelles, et à ce titre, c'était moi qui étais en charge du coffre, je gardais le coffre, j'avais la clé du coffre, la combinaison du coffre. Si des magistrats s'étaient pointés pour se faire ouvrir le coffre, je les aurais fait raccompagner par les matelots de service, personnellement. Alors je suis quand même très étonné de cela, très étonné aussi que des magistrats enquête en principe sur un corbeau qui a fait passer de fausses informations dans le but de discréditer un ministre. Bon, très bien, mais qui sont les corbeaux qui font passer les procès-verbaux d'audition au journal Le Monde ou au Canard
Enchaîné? Exactement, exactement.
C'est quand même assez extraordinaire, ça aussi. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes également à l'intérieur du pouvoir judiciaire. En tout état de cause, il est certain qu'il n'y a plus d'État. Puis, il est difficile, d'ailleurs, que la France soit respectée à l'étranger.
Ah oui, alors, j'allais y venir. Bon. Mais, en fait, on pourrait, d'ailleurs, jouer sur les mots, puisque Clearstream, ça veut dire le courant clair.
Oui, le courant clair.
En fait, c'est plutôt
un torrent boueux.
Oui, c'est le caniveau.
Le courant clair est un torrent boueux.
Il y a dans le Figaro des articles de Vinokur, qui est l'observateur américain, et qui renvoie ça au modèle français, c'est-à-dire à nos élites impuissantes qui se disputent entre elles, qui font leurs petites affaires, et ils signalent, alors je crois que c'est très juste, une très très grande lassitude de l'opinion, et on ne sait pas ce que ça peut donner demain.
Ben, écoutez, il serait temps que l'opinion soit lasse, oui. Et même qu'elle réagisse, c'est sûr.
Qu'elle réagisse, moi je crois qu'elle va réagir. Je pense que nous ne sommes pas loin.
Nous y travaillons.
Voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui est de l'image de la France, on est très frappé de deux choses, justement, vous l'évoquez. La France est diplomatiquement isolée. Aujourd'hui, elle est mal représentée en Europe, un commissaire au transport, et elle est aussi l'objet de la risée d'un certain nombre de partenaires, de nos partenaires. Et on a l'impression d'un autisme de nos dirigeants. Ils ne voient pas ni l'abaissement interne, ni l'abaissement externe.
Je crois qu'ils le voient et que d'une certaine façon, ils y consentent. Parce que la délégation à l'Union européenne de quantité de décisions en matière financière, économique, sociale, est un alibi assez commode pour l'impuissance, tout en conservant les apparences du pouvoir et malgré tout, quoi que l'on en dise, c'est quelques avantages. Bon, il est certain qu'ils ne font pas grand-chose que cela change. Pourtant, à mon avis, la France aurait des atouts considérables. Parce que d'abord, la France peut s'appuyer sur la francophonie. C'est quand même là une zone d'influence assez importante. La France pourrait, c'est ma théorie, elle n'est pas partagée par tout le monde au Front National, par mes collègues, mais prendre un peu la tête d'une union latine, parce que j'avais préconisé le Portugal, l'Espagne, l'Italie, pourquoi pas la Roumanie, et dans cette union latine, il y a quand même, on en parlera tout à l'heure, et c'était très heureux, il y a l'Espagne qui a le réservoir de l'hispanophonie, pour le Portugal, celui de la lusophonie, voilà. Oui, tous les pays qui parlent espagnol, portugais, puis nous avons dans le monde latin quand même beaucoup d'alliés, les Roumains sont des latins francophiles, les francophones, à fond, sauf que maintenant, ça disparaît.
Ça me paraît une très bonne idée, simplement, l'Union latine, pour les historiens, ça rappelle une période qui n'a pas été très heureuse.
Mais c'était déjà une union monétaire.
Oui, c'était sur le plan monétaire, voilà.
Et sur le plan monétaire.
C'est peut-être à cause de ça.
Mais ne parlons...
Mais c'est une très bonne idée, oui.
Mais pour ne parler que notre propre force, nous avons la francophonie. Nous avons le troisième domaine maritime du monde.
Oui, la zone d'exclusivité.
Avec la zone économique exclusive qui a porté en quelque sorte l'usage privatif du domaine maritime de 3000 marins à 200 000 marins. Ah. Hein, c'est-à-dire 370
kilomètres.
Exactement. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. L'îlot de Clipperton au milieu du Pacifique, il est habité par personne, mais sur lequel on vient de temps en temps planter le pavillon français, eh bien, il nous détermine la possession d'une zone exclusive maritime.
Au large du Guatemala.
Presque aussi grande que le territoire français. En un temps où l'on sait que l'avenir se joue pas seulement dans l'espace, mais il se joue aussi dans les mers, et dans l'exploitation des ressources biologiques, minérales du fond des mers. Et nous avons quand même encore un très haut niveau d'ingénieurs qui peuvent construire les avions Airbus, les trains les plus rapides du monde. Il y a tout un potentiel considérable. Nous avons la richesse quand même de nos paysages, notre patrimoine culturel qui est envié mondialement, et peut-être un art de vivre qui est très attractif pour beaucoup, qui nous vaut encore quand même un certain prestige. Nous pourrions utiliser tous ces atouts.
71 millions de touristes en France l'année dernière, mais depuis la crise du CPE. Et depuis la crise des banlieues, il semblerait que les arrivants soient moins nombreux.
Je suis rentré un jour du Japon avec je m'étais trouvé dans l'avion, et comme ça dure 12 heures, on a le temps de lier conversation avec un japonais, un homme d'affaires extraordinairement francophile, qui connaissait tous nos vins, qui vient régulièrement en France, un amoureux de la France. Bon, je me souviens qu'on avait débarqué, beaucoup sympathisé, débarqué à Roissy, on était tombé sur sur la grève des éboueurs, là, alors c'était, on nageait un morceau d'immondice, c'était pas celle du trafic aérien, ni celle du personnel navigant, ni celle des hôtesses ou stewards, ces jours-là, c'était le ramassage des ordures. Voilà, on a pris un taxi, on a assisté à une rixe entre les chauffeurs de taxi pakistanais et arabes, qui se battaient pour, je sais pas, sur d'obscures questions de préséance. Bon, on a réussi quand même à prendre une voiture, on est arrivé dans le RER, c'était une espèce de cloaque, il y avait un clochard qui avait les deux jambes, qui était assis sur le ballast avec les deux jambes qui pendaient dans le dehors, enfin de sorte du quai. Alors on lui a dit, mais il faut vous pousser de là parce que le train va arriver. Il me dit, ah, moi j'ai mal aux jambes. Je dis, ça c'est un problème qui va être rapidement résolu. Alors avec mon touriste, mon homme d'affaires japonais, on l'a tiré sur le quai. Venant, j'avais passé 15 jours dans un pays à Tokyo, policé, où il n'y a pas un ticket de métro qui traîne par terre, où les banquettes sont en velours, il n'y a pas un seul tag, où quand on laisse tomber votre portefeuille, les gens vous courent derrière pour vous le rendre. Ça m'a évidemment ramené aux réalités. Mais je dois reconnaître que ça peut dissuader les touristes japonais de venir chez nous, c'est sûr.
Alors, dans le studio, Bertrand Gallier. Bertrand est professeur de mathématiques, agrégé de mathématiques, professeur en maths sup, et nous allons parler de questions d'enseignement. Mais il réagit déjà à vos boutades, Bruno Gollnisch. Et Pierre-Olivier Combel, qui est naturaliste, éditeur, auteur, et qui nous arrive tout droit du Pérou. Vous étiez il y a quelques jours encore. Et nous allons parler de l'Amérique latine. Mais messieurs, si vous voulez réagir aux propos de Bruno Gollnisch, vous avez tout à fait le loisir pour le faire. Alors, Bruno Gollnisch, la description que vous venez de nous faire de la France me paraît en effet être tout à fait symbolique. Alors, il y a dans l'actualité aussi des questions sur lesquelles nos auditeurs aimeraient vous entendre. Par exemple, la fameuse loi Sarkozy. Parce que je prends le Figaro du mercredi 10 et je vois « Loi sur l'immigration, le plébiscite des Français ». Bon. Alors, est-ce que c'est la loi qui le plébiscite ou est-ce que c'est le fait de s'attaquer à la question de l'immigration ? Je pense que la réponse est la question, mais...
Il plébiscite l'interprétation que le Figaro donne de la loi Sarkozy,
voilà,
qui n'est pas le contenu, qui est encore moins l'effet de la loi Sarkozy. Parce que ce que je me suis efforcé de démontrer dans un document que j'ai présenté à la presse il y a quelques jours, c'est que la loi Sarkozy... Mais d'abord, il faut lire, c'est un texte ardu, c'est vrai, l'exposé des motifs et le texte de loi lui-même. Mais quand on le lit, on voit très clairement, c'est dit explicitement, que c'est essentiellement la transposition de 6 directives européennes. Et vous savez que la législation européenne se fait essentiellement sous forme de directives. Un texte qui est adopté par le Conseil, la Commission, le Parlement, je ne rentre pas dans les détails, et que les États doivent ensuite transposer dans leur droit interne. Mais 80%, peut-être pas 80%, mais soit bien 70% en tout cas, de l'activité législative française, c'est la transcription des directives en droit français. Pour ce qui est du domaine de la loi, parce que en Allemagne, par exemple, une directive européenne, elle peut, par son objet, relever soit de l'État national, soit des Länder. Oui. En France, ça peut être du domaine de la loi ou du domaine du décret. Oui. Bon, donc, le Parlement passe son temps à ça. Et si on ne le fait pas, on est sanctionné. Bon, or, il y a 6 directives sur l'immigration... qui devaient être transposées en droit français. Ces directives sont calamiteuses. Et le reste de la loi Sarkozy, je l'affirme, c'est un peu le rideau de fumée pour essayer précisément de masquer cette réalité. Parce que si on disait aux Français, on fait une loi sur l'immigration, mais c'est une loi sur l'immigration qui a pour but de transposer les directives de l'Europe, à quoi nous contraignent-elles, par exemple, ces directives européennes ? Je vais vous donner un exemple. Il y a la disposition essentielle. L'obtention par un étranger non européen d'un visa de longue durée dans l'un quelconque des 25 États membres donnera ipso facto le droit à cet étranger non européen de voyager et de résider dans n'importe lequel des 24 autres États membres. Je ne sais pas si je me suis fait clairement comprendre. Autrement dit, par exemple, vous avez eu 500 000 régularisations, essentiellement de ressortissants marocains ou africains en Espagne. Bon, quand ils sont régularisés, ils reçoivent un titre qui leur permet un séjour de longue durée, parce que c'est un séjour de courte durée. À la fin du séjour de courte durée, ils ne rentrent pas chez eux de toute façon. Donc, cette régularisation, ça veut dire qu'on leur donne le droit de rester à demeure en Espagne. Et bien, à partir de ce moment-là, ils sont titulaires d'un titre qui leur permet de s'installer en France ou ailleurs. Et ils vont de préfère, beaucoup vont en France à cause du système social provisoirement encore plus favorable en France qu'ailleurs. On en est en Italie, je crois, à la sixième régularisation. Bon. La dernière aussi, il y a eu 250 ou 300 000 régularisés, mais il y avait 600 000 candidats à la régularisation. Bon. C'est pareil, ces régularisations vont s'imposer à nous. Alors ça, c'est quand même extrêmement important. Alors, le fait, pour le reste, pour masquer cette réalité, Sarkozy a pris deux ou trois dispositions qui ne sont pas scandaleuses, mais qui sont totalement dépourvues d'efficacité. Je vais vous donner un exemple. J'espère pas être trop long, sinon vous m'interromprez.
Pas du tout.
Un exemple un peu technique. Une modification, par exemple, du code de la nationalité. C'est une chose que le Front National et moi-même avions dénoncé depuis longtemps. Notre code de la nationalité, enfin, qui est maintenant intégré au code civil, est complètement dépassé. Bon. Il y a notamment une disposition qui dit très exactement ceci, seront dispensés du stage, c'est-à-dire de l'obligation d'avoir résidé en France, qui est normalement de 5 ans, les candidats à la naturalisation, originaires d'États sur lesquels la France a exercé dans le passé sa souveraineté, sa protection, État protectorat, un mandat de la Société des Nations ou une tutelle des Nations Unies. Autrement dit, tous les ressortissants de notre ancien empire colonial étaient habilités, s'ils venaient en France, à demander la naturalisation, à supposer qu'ils ne rentrent pas déjà dans un autre critère d'automaticité, voilà. Ils demandaient la naturalisation en étant dispensés de la condition imposée normalement, qui est d'avoir résidé légalement 5 ans en France. Bon. Sarkozy supprime cette disposition. Parfait. Mais il laisse intacte la disposition qui suit et qui revient exactement au même, seront dispensés également de l'obligation de stage les ressortissants de l'espace francophone, c'est-à-dire ceux qui viennent d'un pays où le français est langue officielle, où le français est l'une des langues officielles, pas seulement la langue officielle, peut-être l'une des plusieurs langues officielles, où l'enseignement est dispensé en français. Alors ça, c'est encore plus vaste que notre ancien empire. Parce que vous avez, par exemple, un pays comme le Congo ex-belge,
ben oui,
ex-Zaïre, qui fait, je ne sais pas, 70 ou 80 millions d'habitants au moins.
Francophone.
Qui est francophone, mais qui n'était pas, faisait pas partie de notre empire. Par conséquent, je crois qu'il y a un habillage. La seule chose que je note, c'est que, dans le principe, ne donne plus droit à la régularisation le fait d'avoir séjourné illégalement 10 ans, mais j'ai confiance qu'il n'y aura pas beaucoup de changements par ailleurs. Il y a le fait que on donne un délai un peu plus important à l'État pour contester une naturalisation obtenue par déclaration du fait du mariage. Et vous savez que beaucoup de mariages étaient des mariages fictifs, je n'ose dire des mariages blancs, bon. Et par conséquent qu'on devenait français par mariage de cette façon-là, sans qu'il y ait de vie commune en réalité. Mais bon, on passe de 1 an à 2 ans le délai d'opposition que peut faire le gouvernement. Mais pour faire opposition à l'acquisition de nationalité française obtenue dans ces conditions frauduleuses, il faut un décret pris par le gouvernement, en Conseil d'État. Les cas sont infimes. Je ne crois pas qu'ils seront beaucoup plus nombreux, même si l'on allonge un peu le délai. Alors je crois que c'est une opération poudre aux yeux. Voilà.
À vous entendre, au fond, d'une part, on a l'impression d'une submersion par tous les biais. d'une part, et d'autre part, que M. Sarkozy n'est que finalement un fonctionnaire, et je dirais même un petit fonctionnaire, qui exécute les directives qui lui viennent de plus haut.
Écoutez, je vais vous donner un exemple très concret sur Sarkozy. Je ne voudrais pas avoir l'air d'être systématiquement négatif. Moi, je cherche le bien comme nous tous. Je cherche le bien comme à notre pays. Je préférais que le ministre de l'Intérieur prenne les bonnes dispositions. Je vais donner un exemple très concret. En Grande-Bretagne, M. Blair, Premier ministre socialiste, vient de limoger son gouvernement, son ministre de l'Intérieur. Pourquoi a-t-il limogé le ministre de l'Intérieur? Parce que le ministre de l'Intérieur a laissé en Grande-Bretagne continuer à vivre en Grande-Bretagne plus de 1000 délinquants condamnés ayant purgé leur peine qui devaient être expulsés à l'expiration de leur peine et qui sont toujours en Grande-Bretagne. Sanction de cette négligence, le ministre de l'Intérieur britannique a été limogé par le Premier ministre socialiste. Bon. En France, qui est théoriquement gouverné par la droite, le ministre de l'Intérieur de droite, soi-disant, M. Sarkozy, a fait beaucoup mieux ou bien pire que son collègue socialiste britannique. Il a fait ce que même la gauche qui le réclamait n'avait pas réussi à obtenir, ou n'avait pas cherché à faire passer dans la loi. Il a supprimé la possibilité d'expulser les délinquants ou criminels étrangers, même multirécidivistes, quand ils étaient résidents en France et qu'ils doivent être expulsés à l'expiration de leur peine. Sous prétexte de supprimer la double peine, ce que la gauche appelait la double peine. On a supprimé la possibilité de les expulser. Voilà un exemple très clair.
Alors, Bruno Gollnisch, tout ceci atteste bien de l'état, évidemment, très inquiétant de la situation française. Cependant, il ne faut jamais désespérer, et vous êtes, je pense, entré en campagne pour les présidentielles.
Oui, tout à fait, avec derrière Jean-Marie Le Pen, avec Marine Le Pen, avec Karl Land, Louis Alliot, avec tout.
Alors, justement, parlez-nous un petit peu, parlez à nos auditeurs de ce que vous comptez faire dans le cadre de cette campagne, les prochaines manifestations, les prochaines réunions, parce que je vois toujours une demande qui vient dans ce sens, quels que soient d'ailleurs les invités que je reçois.
Mais écoutez, nous avons tenu des assises récemment, mais qui n'étaient pas une manifestation de masse qui concernait nos caves. Il est un petit peu prématuré pour moi de vous donner, dire dans le détail quelles sont les prochaines opérations de campagne. Elles sont en ce moment en discussion, et également sur le plan matériel. Alors, je ne voudrais pas donner de date qui risquerait d'être ensuite contredite. Nous allons avoir une annonce solennelle par Jean-Marie Le Pen de sa candidature et de son programme. Nous allons avoir l'inauguration des locaux de campagne. Nous tiendrons certainement des assises en automne, parallèlement à notre fête des bleu-blanc-rouges. Et puis nous allons tenir une université d'été avec nos jeunes. Nous avons deux ou trois lieux en ce moment entre lesquels le choix n'est pas encore fait définitivement, mais il le sera très prochainement.
Alors, maintenant, ce n'est pas in cauda venenum, mais je voudrais vous poser évidemment une question qui, personnellement, me tient à cœur, puisque je viens de publier un numéro spécial de mon avis consacré au thème de l'Union des Patriotes. Ce journal contient 10 pages dans lesquelles nous sommes honorés de 3 interviews, puisque nous avons pu interviewer successivement Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret et Philippe de Villiers. Par ailleurs, nous avons donné la parole à des gens comme Claude Reichmann, comme François-Georges Dreyfus, comme Yves-Marie Hennelin, comme Jean-Yves Le Gallou, Henri de Lesquin, etc. Bon. Parce que, Bruno Gollnisch, je tiens à vous dire que lorsque cette question a été évoquée, elle a suscité beaucoup de messages d'intérêt de la part des auditeurs de Radio Courtoisie, des lecteurs de Mon Avis, d'autres revues. Et nous sentons une pression qui s'exerce dans ce sens. Alors, l'Union des Patriotes, nous sommes, nous autres, à mon avis, journalistes. Nous ne sommes pas des militants, bien que nous l'ayons été pour beaucoup d'entre nous.
Et que vous ayez des convictions.
Et que ça, c'est certain. Que pensez-vous de cette proposition, Bruno Gollnisch?
Elle émane de Jean-Marie Le Pen. C'est une proposition faite par le candidat et président du Front National, bien sûr, mais candidat à la présidence de la République, Jean-Marie Le Pen, dans ce cadre. Il serait donc plus qualifié que moi pour vous en parler, mais enfin, il m'en a parlé, par conséquent, nous en avons beaucoup parlé. Je crois que c'est une proposition assez généreuse qui tient compte précisément de l'état de notre pays, qui est catastrophique, et de la chance historique qu'il y a en 2007 et 2008 avec la conjonction d'une succession d'élections, la présidentielle, les législatives qui vont voir le renouvellement de la totalité du Parlement, les élections municipales, la totalité des directions des communes, les élections des conseils généraux, le renouvellement de la moitié de ces conseillers départementaux, en quelque sorte, les sénatoriales, le renouvellement de partie du Sénat. Il va y avoir tout cela dans un espace de temps très réduit, et ça peut être l'occasion d'un changement profond dans la politique française. Alors, cette union des patriotes, Jean-Marie Le Pen m'a dit l'avoir conçue comme s'adressant non seulement aux appareils, mais aussi aux personnes, parce que les patriotes ne sont pas toujours enrégimentés ou dans telle ou telle organisation. Et pourtant, je suis très en faveur de l'adhésion, parce qu'elle permet de savoir sur qui on peut compter. Elle représente un sacrifice financier, mais elle est aussi une garantie d'indépendance pour nos organisations. Mais il y a aussi beaucoup de gens, une grande majorité de gens qui ne sont encore dans aucun appareil et qui peuvent peut-être répondre à cet appel. L'union des patriotes part aussi de la constatation qu'il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui un peu la même chose, et là vous me permettrez quand même sans prétention de dire la même chose que ce que Jean-Marie Le Pen et le Front National ont dit avant tout le monde.
C'est entendu.
Ça, je crois qu'il faudrait quand même... Non, vous, par honnêteté intellectuelle, Olivier Pichon, vous en convenez, mais tout le monde n'en convient pas. Je pense que serait décent que d'autres en convincent, voilà, comme peut-être Philippe de Villiers, par exemple. L'autre jour, j'étais, il y a deux jours, chez Mme O'Krent et M. July, l'émission France 3 sur l'Europe. Je dois dire que j'étais d'accord avec beaucoup de choses que disait par exemple M. Dupont-Aignan, mais je suis d'accord avec, parce que c'est ce que à notre niveau nous répétons depuis des dizaines d'années. Alors il le fait aussi avec foi, avec conviction, avec talent, mais je pense qu'il serait honnête et loyal de sa part de reconnaître le tribut moral.
Certes, vous savez, bon, là-dessus...
Mais ce n'est pas en vue de cela, ce n'est pas en vue de cette reconnaissance qu'a été faite cette union. Oui. Elle part de ce constat que des gens qui disent à peu près la même chose, qui paraissent avoir les mêmes convictions, se présentent de façon, envisagent de se présenter d'une façon concurrentielle aux élections. Il semble quand même qu'il vaille mieux une unité de candidature pour la présidentielle, mais que, évidemment, ceux qui bénéficieraient de cette identité de candidature pour la présidentielle devraient faire une place aux autres pour les législatives. Et pour les législatives, ce n'est pas une mince affaire, parce que c'est pas faire injure, par exemple, au MPF, de dire que il ne représente pas grand-chose, quand même, encore aujourd'hui, en termes de voix, si on se fonde sur les seuls véritables sondages que sont les élections précédentes. En revanche, si les candidats MPF étaient appuyés par les électeurs du Front National, s'ils avaient une investiture commune, par exemple, bien, ça augmenterait considérablement leur pourcentage. Alors, je ne pense pas seulement au MPF. Je constate que d'autres avec lesquels nous avons été dans le passé, c'est vrai, en désaccord très, très, très fort et même en conflit, on me semble-t-il, l'intelligence de considérer cette proposition avec faveur. Par conséquent, je crois qu'il faut discuter avec tout le monde.
Savez-vous que le monde qui ne parle jamais de Radio Courtoisie, sauf en mal, a cité cette émission, Mon Libre Journal, Bruno Gollnisch, parce que dans cette émission, Bruno Maigret avait dit qu'il était favorable à cette union des patriotes. Or, pourquoi le monde en a-t-il parlé? Parce que si d'aventure cette formidable hypothèse se réalisait, ils auraient du souci à se faire, parce que c'est à ce moment-là
la droite nationale, si j'en crois les sondages, c'est le premier parti de France.
Le système craint cela plus que
plus
tout.
Plus que tout, nous sommes bien
plus
sûr.
Que tout.
Alors, une autre... Une
plus
autre...
que tout, je pense aussi à des gens même qui, sur des questions économiques ou sociales, ont pu différer de nous, mais qui sont des patriotes. Je crois que nous vivons une situation qui exige quand même un gouvernement de salut public.
Voilà. Alors, au lieu d'essayer de plumer la volaille du voisin, disons,
oui.
Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, par exemple, se tourner par cette dynamique qui serait véritablement convaincante, se tourner vers l'énorme réservoir des abstentionnistes? Alors, il y a eu le référendum du 29 mai 2005. Bon, là, c'était très clair, c'était une défaite du système. Deuxième défaite du système depuis le 21 avril 2002.
Tout à fait.
Mais souvenez-vous des élections de 2004, la formidable abstention qui s'était produite aux européennes et aux régionales. Il y a un réservoir considérable. Et à l'UMP, ce que dit Henri de Lesquin est très juste, à l'UMP, les électeurs sont beaucoup plus à droite que ne sont leurs représentants.
Ah ben ça, je peux... Ça fait 25 ans que je le vérifie.
Oui.
Bien sûr.
Bon, là, il y a un potentiel de croissance considérable. D'autre part, je voudrais quand même vous opposer que dire qu'on a été le premier à le dire, c'est incontestable. Mais en politique, vous savez, il n'y a pas de copyright. Il n'y a pas de droit d'auteur. L'important, me semble-t-il, maintenant, ce n'est pas d'être seulement... celui qui a dit, mais il faut, les Français aspirent à ce que les choses se fassent, et qu'il ne suffit plus de les dire, parce que même Sarkozy, dont vous venez de nous montrer admirablement qu'il est très en retrait par rapport à ce qu'il dit dans ses projets, parce que ce projet n'est que l'application des directives européennes, mais Sarkozy teinte son discours.
A l'air de faire.
Vous voyez, il a l'air de faire. Or,
il est au gouvernement, c'est quand même
oui,
plus facile.
Oui, mais, bon, mais justement, je crois que les Français sont là de ce qui se dit. Ils veulent ce qui se fait maintenant. Vous voyez. Alors, bien sûr, c'est pas évident, il y a des élections, et puis il faut, l'union est un combat, si je puis dire. Pour discuter, il faut être deux, il faut être trois. C'est pas toujours facile. Mais croyez-moi,
mais je pense que Jean-Marie Le Pen fera suivre cette initiative et entamera des discussions avec ceux qui ont, ou fera entamer des discussions avec ceux qui ont répondu favorablement sur le principe.
Voulez-vous?
Moi, je crois déjà que la première chose, c'est peut-être vous disiez, avoir eu raison le premier n'est pas forcément un gage de réussite.
Je n'ai pas dit ainsi. Je souhaiterais qu'avoir raison le premier conduise au succès aussi.
Je veux dire, moi je suis d'accord avec vous, les idées politiques ne sont pas brevetées. Et je trouve légitime la démarche de ceux qui reprennent les analyses que nous avons faites. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que quand en reprenant ces analyses, ils prétendent exclure une composante de la vie politique française, le Front National, qui, au regard de toutes les dernières élections, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là n'est pas le problème, est objectivement la force, non seulement la plus ancienne, mais la plus importante par l'audience électorale, par la représentation parlementaire. Alors, qu'on le fasse aussi, et par, je crois, la cohérence du combat. Alors, moi, je suis assez navré quand j'entends, par exemple, M. de Villiers qui dit « Mais moi, je ne veux pas parce que moi, je veux désarmer les banlieues et Le Pen veut armer les barbus. » Bon, ça n'est pas très sérieux. Nous sommes dans le domaine de la politique international. C'est un domaine extraordinairement délicat, extraordinairement difficile. On ne peut pas partir comme ça la fleur au fusil. S'il y a une guerre avec l'Iran, les conséquences peuvent être considérables. Considérable pour tout le monde. Le fait qu'un homme politique responsable qui aspire, qui est un homme d'État, pour moi, Le Pen, qui a montré d'ailleurs dans l'affaire irakienne, ce que plus beaucoup de personnes contestent aujourd'hui, qu'il avait là aussi vu clair avant bien d'autres, disent qu'il y a beaucoup, il y aurait beaucoup de risques à engager une guerre contre l'Iran. Ça ne veut pas dire qu'il veut armer les barbus, d'autant plus que ces barbus, il les a combattus. Je signale signale que le lieutenant Jean-Marie Le Pen a été volontaire pour quitter son banc à l'Assemblée nationale et pour aller les combattre, précisément, les barbus, quand ils étaient en Algérie. Tout le monde n'en a pas fait autant. Alors, voilà, il faut éviter, à mon avis, ce genre de choses.
Je comprends tout à fait, mais que pensez-vous de cet article qui est paru il y a à peu près un mois dans le Sun, qui disait ceci, hein, je vous livre l'information telle qu'elle est. Jean-Marie Le Pen perd une partie de son électorat, disons, conservateur, et il chercherait, disait Le Sun, encore une fois, à gagner une partie des voix sur un certain nombre de jeunes beurs dans les banlieues, à cause justement de ses positions sur l'Irak. À cause du fait qu'il a ménagé la Turquie sur certains points, et c'est probablement là le point de discorde ou de divergence, je pense, important. Et c'est d'où d'ailleurs les déclarations de Philippe Devilliers en disant qu'il ne veut pas faire du MPF un mouvement islamo-compatible. Alors, est-ce qu'il y a une ambiguïté? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bruno Vanich, qu'en pensez-vous?
Oui, mais en 84 au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen, et en 87, moi-même, à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires étrangères dont j'étais membre, nous étions opposés à l'adhésion de la Turquie, à un moment où M. Devilliers faisait partie, il est vrai, au titre de la culture, d'un gouvernement qui y était favorable, et qu'il depuis l'est resté. Par conséquent, là aussi, il faut quand même une certaine prudence. Maintenant, entre le fait d'être opposé à l'adhésion de la Turquie et le fait de dire qu'après tout, les Turcs veulent s'inspirer de l'islam dans leur politique intérieure, plutôt que, je ne sais pas, du modèle d'Atatürk ou autre, c'est leur affaire. Si nous sommes des nationaux cohérents, nous devons reconnaître la liberté des diverses, diverses nations. Je crois ce qu'on peut dire à cet égard. Quant à au message en direction des jeunes beurs, moi j'ai entendu un discours d'ailleurs extrêmement émouvant de Jean-Marie Le Pen devant 10 000 personnes, c'était à Bercy, je crois. Adressé à ce qu'on appelle les jeunes de la deuxième, sont maintenant d'ailleurs de la troisième ou quatrième génération, en leur disant, écoutez, si vous haïssez notre pays, sachez que vos pères se sont battus pour que vous ayez une patrie, pas forcément pour que vous vouliez prendre la nôtre, et par conséquent, votre avenir, il est là-bas. Si vous vous sentez algérien, en revanche, s'il entre dans votre démarche une parcelle d'amour pour la France, à ce moment-là, les choses sont différentes. C'est vrai que nous recevons un certain nombre de témoignages. Moi, j'ai vu, il y a 10 jours, est venu dans mon bureau un homme jeune, on peut dire que c'est un jeune homme, une trentaine d'années, d'origine tunisienne, qui m'a dit, Monsieur Golish, moi j'ai lu les propositions du Front National que vous avez présentées en matière de code de la nationalité, l'obligation pour les doubles nationaux d'opter et de renoncer à leur nationalité d'origine. Je trouve que votre message est précis, qu'il est clair, moi je me sens français, j'ai toujours respecté les lois de la France, j'ai créé une entreprise de manutention à Roissy, je vis honnêtement, et je souhaiterais je renonce à toute autre allégeance politique, et je me considère comme français. C'est vrai quand même que le témoignage de cet homme qui n'avait pas choisi de naître sur notre territoire est quand même intéressant. Alors, moi, je pense qu'il faut être raisonnable dans ce domaine.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Le libre journal d'Olivier Pichon.
Et nous recevons Bruno Gollnisch, qui est député européen, qui est aussi délégué général du Front National. Alors, je vous propose, Bruno Gollnisch, de donner la parole à nos auditeurs et de répondre
sûr,
à leurs questions,
bien sûr,
si vous voulez bien. Comme vous avez très volontiers répondu aux miennes.
Je vais essayer d'être plus bref pour laisser vos autres invités s'exprimer.
Alors d'abord, un message d'une auditrice qui est très contente de voir M. Bruno Gollnisch
d'entendre,
oui, au micro de Radio Courtoisie.
Merci.
Et qui nous dit, vous estimerez peut-être inopportun de lire ce message au micro, mais j'aimerais que vous le fassiez passer à M. Bruno Gollnisch. Je l'ai lu, voilà.
Merci beaucoup, ça me touche.
Très très déçu de la division de la droite nationale. Voilà, il vous demande de faire quelque chose, donc je vous donne le message.
Pardonnez-moi, excusez-moi, oui, répondez. C'est pas forcément une division de la droite nationale. Par exemple, disons les choses clairement, sans langue de bois, Bruno Maigret, il y a eu une division à ce moment-là. Bon, oui. Mais c'est une division qui remonte à 8 ans. Moi, je ne crois pas que ce soit une division de la droite nationale. Philippe de Villiers, il était à l'UDF, il était au Parti Républicain. Il vient sur le terrain de la droite nationale. Il emporte avec lui, je l'espère, un certain nombre de gens qui se détachent de cette mouvance pour venir sur les thèmes nationaux. Dupont-Aignan, dont je parlais, il est membre de l'UMP. Bon, il, à l'intérieur de l'UMP, il croit pouvoir, je pense, si c'est un homme intelligent, il est certainement revenu de cette illusion, créer un courant qui, pas sur tous les points bien sûr, mais sur un certain nombre, défend la souveraineté française. Par conséquent, je ne crois pas que ce soit une division de la droite nationale. Je crois qu'il y a, un parti important de droite nationale, un mouvement important de droite nationale qui est le Front National, et puis il y a des morceaux d'iceberg qui se détachent du glacier. Alors il faut les agréger, ça c'est plus difficile.
L'agrégation est toujours une chose difficile.
Oui.
cela veut dire que c'est pas une division, c'est une multiplication. Alors
voilà, sourire dans le studio. Voilà, une auditrice dans le Figaro du 3 mai dont vous venez de parler. Sarkozy dit la réforme ambitionne de façonner le visage que la France aura dans les 30 années qui viennent. On voit très bien quel visage aura la France dans 30 ans. Les phases de craie auront disparu. Voilà, donc question-réponse. Un auditeur. Peut-on dire que les Québécois officiellement francophones peuvent réclamer la nationalité française? Je ne sais pas si c'est...
Oui, tout à fait, puisque à l'heure actuelle, il rentre dans le cadre de
la disposition,
que j'ai lue. Ils appartiennent et relèvent de l'espace francophone. Oui. Ceci étant, je veux dire, si nous n'avions en France que le problème de l'immigration québécoise, je dis bienvenue aux Québécois.
Bon. Et puis peut-être bien qu'à l'accent, ça change.
À propos de l'affaire Clearstream, je ne vois pas ce que M. Pichon attend de l'opinion publique. Il y a 150 ans, Heinrich Heine déclarait « Il n'y a pas d'opinion publique ». En réalité, oui. Il s'agit de l'opinion des journaux.
Oui.
Donc
oui,
la
oui,
télévision.
Bien sûr, enfin.
Un auditeur, M. Gomnich, pouvez-vous nous parler de la position du FN par rapport au nucléaire, à l'islam, etc. Je crois que vous en avez déjà bien parlé.
Oui, je crois, sur l'islam, le Front National, on peut le regretter, mais c'est ainsi, n'est pas un parti confessionnel. Il reconnaît les valeurs chrétiennes. Il milite, en quelque sorte, pour la reconnaissance du droit naturel, du décalogue. Il reconnaît la composante chrétienne de l'identité française, même si notre pays est hélas, selon moi, très largement des chrétiens. Il honore en Jeanne d'Arc la sainte de la patrie, les symboles veulent dire quelque chose. Il honore, il a été la seule formation politique à vouloir célébrer avec éclat le 1500e anniversaire de la France qu'il fait remonter au baptême de Clovis. Bon, tout cela est clair. Il n'a jamais cependant attaqué une religion en tant que telle. Voilà, il n'a jamais attaqué une religion en tant que telle.
Oui.
Mais il a mis l'accent sur le fait que immigration plus réveil de l'islam pouvait constituer pour la France un péril mortel. Mais le problème, c'est avant tout l'immigration. Voilà. Et c'est contre cela que nous luttons.
Alors, nous avons Bruno Gomnich, tout à l'heure je vais recevoir un autre Bruno encore, décidément les Bruno aiment bien la politique. Il y a beaucoup de questions. Et comme
je vais m'efforcer d'y répondre brièvement alors.
Ce qu'il faut.
Je réponds très brièvement.
Bruno Gomnich doit partir à Lyon et il faut.
Je peux, c'est encore bon pour le
moment. C'est encore
bon. Oui.
Une auditrice, je regrette le virage pris par le FN lorsque M. Le Pen, après les émeutes des banlieues, a nié qu'elles avaient un caractère ethnique et raciste. J'y habite et je peux vous certifier que le drapeau français y brûlait et que les slogans étaient contre les Français. De même, le virage pris par M. Le Pen qui affirme que les médias, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et les lois de la République française. Oui. Il y a un autre...
Bon, mais là, ça fait choquer. Mais ça dépend quel islam. C'est un... Alors, oui. Je réponds très brièvement. L'incompatibilité entre l'islam et la République française, de quoi s'agit-il? La liberté du culte pour les musulmans n'est pas incompatible avec la République française. Bon, mais il est évident que les préceptes civils qui découlent d'un islam qui prétendrait régir la vie civile comme et notamment par exemple, je ne sais pas moi, la polygamie ou relativement au statut de la femme ou l'obligation pour elle d'être voilée, etc. C'est évident, l'impossibilité de choisir librement sa religion ou d'en changer. Bon, tout ça c'est incompatible clairement avec la République française, mais ce n'est pas malgré tout l'opinion de tous les musulmans, et je crois que il faut dans ce domaine raison gardée, voilà. Et puis, moi, je dirais que le problème des mosquées se poserait peut-être un peu moins si les églises étaient plus remplies.
Sûrement.
Voilà, bon, je dis ça en tant que catholique.
Et vous savez,
si le Front National n'est pas un parti confessionnel, moi, j'essaie d'être catholique. Bon, ben, je dis à nos compatriotes qui s'indignent, mais qui n'ont plus aucune culture religieuse, historique, etc., bon, voilà, commencez par remplir les églises, on construira moins de mosquées.
Et nous allons avoir énorme problème. Nous allons avoir, dans les 10 années qui viennent, des milliers d'églises vont être... les municipalités...
Bien sûr, c'est un problème. Mais oui, parce qu'elles sont vides.
Mais voilà.
Bien sûr, parce qu'elles sont vides. Mais je signale quand même, que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas M. de Villiers qui a été condamné pour avoir dit que s'il y avait 25 millions de musulmans en France... on serait obligé de baisser les yeux. C'est Jean-Marie Le Pen qui l'a été très lourdement. Je signale également que ce sont les élus du Front National, et en particulier messieurs Queudrens et Binder, président de notre groupe au Conseil Régional d'Alsace, et qui ont mené la guerre contre le financement public de mosquées à Strasbourg, qui ont été ignoblement condamnés en première instance, et qui viennent aujourd'hui d'avoir gain de cause en appel. Bon, c'est un combat que nous menons. Je signale que le détournement du financement public pour la construction d'une mosquée à Tournon en Ardèche, il est attaqué devant le tribunal administratif par le Front National qui a pris qui prend en charge les frais et l'organisation de cette instance. Alors encore une fois, moi je veux bien que les gens aient le zèle de polieux ou du néophyte. Je comprends qu'il y ait des ouvriers de la 11e heure. J'ai toujours trouvé d'ailleurs cette parabole de l'évangile moralement assez difficile à accepter, le fait que les ouvriers de la 11e heure soient payés autant que les ouvriers qui avaient travaillé toute la journée. Mais ce qu'il faut quand même dans l'évangile, les ouvriers de la 11e heure, ils prétendent pas rafler la mise et piquer le salaire des ouvriers du début.
Sauf que la vie éternelle, de toute façon, ça ne se compte pas, Golnisch, et par conséquent, si vous voulez l'explication de la parabole, on le fera, mais pas
merci, merci. On me l'a déjà exposé, voilà. Le catéchisme.
Voilà. Alors, revenons à nos moutons, si je puis dire. Et si vous me permettez, je vais me tourner vers nos invités, puisque vous êtes universitaire, Bruno Golnisch, et vous connaissez...
Je l'étais, oui.
Vous connaissez partout, oui. On l'a tous été, oui.
Je suis suspendu pour
oui.
le moment.
Alors justement, je me tourne vers mon ami Ringaldier. Pardon, votre prénom, mon cher Bertrand, voilà. Et Bertrand Ringaldier, vous êtes déjà venu à ce micro parce que nous avons évoqué avec vous tous les problèmes de l'offensive pédagogique dans le mammouth. Et il y a eu notamment la démission, l'exclusion de Laurent Laforgue, et puis démission forcée, disons. Et aujourd'hui, des événements très importants se dessinent qui, je crois, sont importants de signaler à nos auditeurs. Et c'est pourquoi j'ai voulu que, Bertrand, vous soyez présent ce soir, et nous allons d'ailleurs appeler un certain nombre de professeurs qui mènent des actions de terrain contre le pédagogisme. C'est la résistance qui s'organise, et ça, c'est tout à fait intéressant. Je crois que Bruno Gollnisch satisfera aussi. Vous êtes Bertrand Ringallier, professeur agrégé de mathématiques en prépa aux grandes écoles d'ingénieurs, Mathsup. Et il y a une nouvelle tout à fait exceptionnelle, c'est que Laurent Brigel, c'est pas Laurent, c'est Jean-Paul Brigadi, décidément j'ai des problèmes de prénom. Jean-Paul Brigadi vient d'être exclu du jury de CAPES. Alors Jean-Paul Brigadi, c'est l'auteur du livre donc La Fabrique de Crétins.
Voilà.
Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il écrit. Hein.
Ah non, ce n'est pas du tout la question.
Mais justement, je sais voir en lui un véritable résistant anti-pédagogisme dominant.
Absolument.
Alors, parlez-nous un petit peu de cette affaire.
Alors, bon, peut-être remonter un petit peu au début. Disons que en ce moment, dans le mammouth, commence à se mettre en place une résistance organisée, mais une résistance vraiment active. Une résistance au sens où l'on sort les fusils de sous les tuiles, où on sort les armes des tas de paille, et on prend le maquis.
Et les fourches.
On prend le maquis. Le terme de résistance avait été utilisé par le président de l'association des professeurs de lettres début avril lors du colloque annuel. Laurent Laforgue, je rappellerai peut-être un petit peu qui il est et les tenants et les aboutissants, enfin pas encore les aboutissants, mais disons l'affaire, les quelques points essentiels sur l'affaire Laforgue. Laurent Laforgue, lors d'une émission sur France Culture, avait carrément déclaré « J'appelle les enseignants à la rébellion ». Enfin, il commence à se mettre en place réellement une résistance extrêmement active. Alors le dernier point justement que vous venez d'évoquer, donc qui date du 10 mai, donc d'hier. Alors je vais lire peut-être le premier paragraphe donc d'un avis, le courriel qui a été diffusé donc sur Internet, qui émane donc de Jean-Paul Brigelli, qui a donc écrit donc La Fabrique du Crétin, qui est paru, je crois, en septembre.
Oui, c'est ça, pour la rentrée. Oui.
Voilà, pour la rentrée. Alors donc je cite Jean-Paul Brigelli. Donc le titre, Règlement de compte. Je viens, aujourd'hui 10 mai, de me faire débarquer du CAPES de lettres modernes pour délit d'opinion. Le président du jury, Alain Pagès, flanqué du vice-président inspecteur général Jean Jordi, m'a interrompu au milieu du classement des copies que nous venions de ramener à Tours, centre de concours. Il y avait apparemment urgence. Il m'a expliqué que depuis septembre dernier, juste après la parution de La Fabrique du Crétin, plusieurs membres du jury, particulièrement ceux de l'épreuve de didactique, avaient exprimé leur difficulté à siéger désormais dans un concours qui m'hébergeait. Une pétition a commencé à circuler entre ces honorables enseignants, pour la plupart IPR ou chargés de cours en IUFM. Le mouvement s'est accentué après l'apparition de A Bonne École, je crois d'ailleurs préfacé par Laurent Laforgue, où j'ai le malheur d'interroger le bien fondé de la part de plus en plus grande de la didactique dans les concours de recrutement. Cette avancée sournoise de la pensée unique pédagogiste, désormais, m'a-t-on expliqué, je ne pourrais plus être présent à l'oral ni à l'écrit, alors même qu'après enquête, je donnais toute satisfaction à ce niveau, cette année comme l'année dernière. Mon cas personnel est peu de choses, mais il faut être attentif à un point, je suis viré pour délit d'opinion, et c'est tout. Alors je crois que c'est d'une gravité absolument sans précédent.
C'est exactement ce qui vous est arrivé.
Demander des conseils à M. Gollnisch pour se défendre.
Je recommanderais à ce collègue d'essayer de saisir la juridiction administrative. Elle ne m'a pas. Moi, j'ai été l'objet d'une persécution incroyable à partir de propos qui, même tronqués, étaient d'ailleurs parfaitement anodins et même présentés de la façon la plus malveillante. Et encore pour des propos que je n'ai pas tenus, moi, dans le cadre de mon enseignement. Mais comme parlementaire, dans ma permanence électorale, je dois dire, je me permets de dire à Radio Courtoisie, mon cas passe en appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche le 22 mai. Ça commence à 9h du matin, mais ça va durer non-stop. Je peux vous dire qu'il y en aura encore, je pense, à 5h du soir. Par conséquent, et c'est public, l'audience séance est publique, donc
et gratuite.
Donc je suggère à ceux qui le souhaiteraient de venir, évidemment, de se tenir avec une parfaite correction et de ne donner à mes propos ni approbation ni improbation. Mais je pense qu'il est bon qu'on sache comment la police de la pensée procède et ce que l'on est la valeur de certains témoignages. On a produit contre moi des témoins qui sont des historiens qui viennent témoigner et ces historiens, c'est que ce soit messieurs Pinol et Ours pour ne pas les nommer à Lyon, sont des historiens qui ne savent rien de mes propos, qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais, que je ne connaissais pas, mais qui viennent en tant que témoins. Et qui n'ont de mes propos, par exemple, qu'une connaissance qu'ils en ont eu par la presse. C'est évidemment démenti par moi. Et qui ont publié des communiqués contre moi, qui sont évidemment le fruit de l'hostilité politique, mais qui sont retenus comme témoins du scandale, alors qu'ils en sont en réalité les acteurs. Voilà, mais messieurs Pinol et Ours, par exemple.
Il y a un effondrement de la notion même de la distinction entre ce qui relève de l'opinion, ce qui relève du document, ce qui relève de la presse, et de ce que l'on rapporte sur une personne et de ce qu'aurait dit cette personne. Regardez, il y a un problème dans l'actualité qui est très intéressant. La Turquie menace de représailles économiques la France si elle fait voter une loi sur le génocide arménien. Or, il est clair, d'ailleurs le président de la République l'a dit, nous sommes abrités par la parole du premier magistrat de France, que c'est une affaire qui dépend des historiens.
Bien sûr.
Et c'est ce que vous avez dit, Bruno.
Mais moi, je suis tout à fait favorable. En tant qu'homme politique, personnellement, je reconnais tout à fait le génocide des Arméniens, mais je crois que c'est le pire service à rendre aux Arméniens
que d'en faire une loi.
Une obligation
légale.
Ben, une obligation légale qui, évidemment, jettera la suspicion à perpétuité sur la matérialité du drame qui s'est effectivement produit. Ouais. Voilà, c'est vrai dans tous les autres cas de figure. Moi, je ne trouve pas anormal que l'État reconnaisse... Je pas que l'État célèbre le 14 juillet, le 11 novembre, ou tel ou tel événement historique qui soit, que sais-je, le 8 mai, et qui soit célébré d'une certaine façon. Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on prétende en interdire la contestation par la loi. Et ce qui est scandaleux, en l'occurrence, c'est la persécution dont sont victimes, sous un gouvernement théoriquement de droite.
Oui.
Sous un gouvernement théoriquement de droite. Car les persécutions contre l'université dont j'ai été l'objet, le fait générateur, c'est que j'ai protesté contre ces persécutions. Elles ont été entamées par des gens de gauche, elles ont été continuées sur des gouvernements de droite, elles ont trouvé des relais dans la presse Ersan, et aujourd'hui dans la presse ex-Ersan, aujourd'hui Dassault, et c'est ça qui est absolument insupportable, cette dictature du politiquement correct.
Alors Bertrand, je reviens vers vous.
Oui, ce qui est en plus totalement invraisemblable avec l'histoire Brighelli, c'est que les jurys des concours de l'éducation nationale, en l'occurrence le concours du CAPES, sont nommés pour un an, et ils sont proposés, on m'a expliqué ça tout à l'heure, peut-être que nous aurons la personne en question au téléphone, je l'espère, ils sont proposés par le président du jury, et ils sont nommés par décision ministérielle. Donc il n'appartient, mais légalement en aucun cas, au président du jury de débarquer en plein milieu du concours un des membres du jury. Enfin, c'est absolument effarant.
Alors il faudrait peut-être préciser...
Il faut saisir le Conseil d'État qui, moi, dans mon affaire, sur certains points, par exemple, en condamnant sévèrement le ministre en raison des propos, des atteintes à la présomption d'innocence et des propos indignes du recteur Morvan à mon égard, on peut parfois, peut-être, pas toujours, pas toujours.
Parce qu'en l'occurrence, ceux qui se défendent là, politiquement, le courant politique qui se défend à travers ce qu'on a appelé le didactisme, le refus de l'épreuve didactique, c'est en fait tout le corpus pédagogique de pédagomaniaque, disons.
Pédaludique, j'appelle ça aussi.
Qui représente en réalité la version modernisée du marxisme. Le pédagogisme est la forme actuelle du marxisme. C'est un levier de subversion dans l'éducation. C'est Alain Besançon qui, dans la préface de l'École des barbares, de François Stomme, avait écrit il y a pratiquement 25 ans. Le pédagogisme est un corps étranger à l'éducation, introduit en son sein pour la faire exploser.